Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver, de commencer la semaine et le déconfinement avec vous et Culture Média. Au menu, médias et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture. Si j'ose dire, une émission déconfinée comme elle l'a toujours été, sans barrières, sans préjugés et sans esprit de caste. Il y aura le journal des médias de Cyril Lacarrière, le journal de la culture d'Hélène Manarino, des conseils de séries et Spider-Man comme jamais vous ne l'avez vu. Notre infomédia, depuis le 21 mars, depuis le début du confinement, France 2 diffusait des films patrimoniaux juste après son journal de 13h. Dernière diffusion hier, La folie des grandeurs, avec Louis de Funès, film de Gérard Roury. Eh bien, vous savez quoi? Ça n'a pas plu à tout le monde dans le milieu du cinéma. Et surtout pas à la cinéaste Charlotte Silvera, qui a poussé et qui pousse un coup de gueule, vous l'entendrez. Nos invités ensuite, ça commence aujourd'hui, ça recommence aujourd'hui. Les tournages ont repris et l'émission de témoignages de France 2 revient ce lundi dans des conditions inédites. Nous serons avec sa présentatrice, Faustine Bollaert. Ironie de l'histoire, l'émission reprend la place des films de patrimoine qui migrent sur France 3. Enfin, le chanteur Kali, pour un nouvel album, Caval, peut-être son plus personnel, dont on va entendre le titre phare, le tube, comme on disait autrefois avant le confinement. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Bordel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
J'entends votre sourire que vous êtes heureux d'être déconfiné. Place à ce journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin?
Philippe, ce matin, un journal un peu particulier. En ce premier jour de déconfinement des Français, je vous propose de nous intéresser à un des acteurs majeurs de cette crise sanitaire côté médias, les chaînes info. Quels enseignements, quels moments à retenir? C'est au sommaire du journal des médias de ce lundi 11 mai.
Mais on commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé ce week-end et d'abord hier soir?
Les Français n'ont pas laissé bébé dans un coin. Ils ont regardé Dirty Dancing. Près de 5 400 000 téléspectateurs étaient hier soir devant TF1. France 3 suit la marche avec son commissaire Dupin. Regardez. Par près de 4 300 000 téléspectateurs. Et ce cher commissaire allemand fait donc mieux que Tom Cruise. L'agent Hunt doit lui se contenter de la troisième place du podium. Mission Impossible Protocole Fantôme a été suivi par 4 250 000 Français sur France 2.
Et puis Cyril, les audiences de vendredi et de samedi soir.
Koh-Lanta, encore et toujours, le jeu présenté par Denis Brognard a de nouveau régné sans partage vendredi soir. Près de 6 600 000 Français ont regardé TF1. C'est plus de 27% de part d'audience. Un score très important, même si en baisse par rapport à la semaine dernière, un peu moins de 500 000 téléspectateurs avaient déserté TF1 pour ce 11e épisode de la saison. Quant à samedi, comme la semaine dernière, France 3 garde la main. La rediffusion de son téléfilm Le Pont du Diable est très large leader. 5 500 000 de téléspectateurs étaient devant la chaîne numéro 3. C'est 23% de part d'audience.
Culture Média. Cyril, on commence maintenant ce journal des médias et vous l'avez dit, un journal un peu particulier aujourd'hui puisque en ce jour de début de confinement, vous avez décidé de le consacrer à l'un des acteurs majeurs de cette crise sanitaire, les chaînes d'info continuent.
Un jour de début de déconfinement, Philippe. Ne nous reconfinez pas tout de suite.
Ah oui, le déconfinement, vous avez raison, mais enfin tout le monde avait compris. C'est le 11 mai, tout le monde a compris.
Jamais les audiences des chaînes info françaises n'avaient atteint de tels niveaux. BFM TV s'est même installé deux mois de suite cinquième chaîne de France. En avril, ex-aequo avec France 5. Mais BFM n'est pas la seule. LCI a également battu son record d'audience. Quant à CNews, évidemment, elle n'a pas dépassé ce que Itélé avait pu réaliser en son temps. Mais la chaîne du groupe Canal a elle aussi été nettement plus regardée que d'ordinaire. Alors, pour faire un bilan de ces deux mois de confinement, nous avons joint les quatre patrons des chaînes info, j'ai inclus évidemment France Info, en leur soumettant à chacun les mêmes questions. Et la première, c'est quel enseignement tirer de cette période hors du commun que nous venons de vivre? Et vous allez voir, les points de vue varient. On commence avec Fabien Namias, le directeur général délégué de LCI.
Cette soif et cet appétit d'information s'est tourné très majoritairement et massivement vers les médias traditionnels. Et alors qu'on avait beaucoup glosé sur le lien qui s'était, on va dire, distendu entre les Français et l'information et les médias traditionnels, censément au profit des réseaux sociaux, d'Internet, etc., on voit que plus que jamais, la notion de médias référents, avec une information qui est recoupée, qui est hiérarchisée, la chasse à la fausse information, ce qu'on appelle les fake news, a vraiment été identifiée comme étant l'apanage des médias traditionnels et de la télévision. Donc c'est pour moi, on va dire, un retour aux valeurs fondamentales de ce qu'est le journalisme dans ce pays et qui a été mis en avant par la crise que nous traversons actuellement.
Une soif d'info qui s'est traduite évidemment du côté de la chaîne du groupe TF1 avec 1,6% de part d'audience au mois d'avril. LCI a atteint le meilleur niveau de son histoire. La chaîne a d'ailleurs été la seule à progresser entre mars et avril et elle est toujours la deuxième chaîne d'info devant CNews. Et justement, on va écouter Thomas Bauder, le directeur de l'information délégué de CNews. Et vous allez l'entendre, son principal enseignement se situe sur les nouvelles manières de travailler.
On a réussi à conserver, voire à renforcer le lien avec les téléspectateurs. Et notamment avec ce système qu'on avait mis en place à CNews avant le confinement et avant la pandémie, qui est un système de communication FaceTime et qui a permis en fait à la fois d'avoir la possibilité d'interroger les gens directement chez eux, alors de tous ceux qui étaient confinés, mais aussi des Françaises et des Français qui nous ont fait part de leur expérience, de leurs espoirs, de leur découragement, de leurs émotions, avec ce système de FaceTime, puisque tout le monde aujourd'hui, quasiment tout le monde a une caméra ou accès à une caméra domestique, on a pu développer et renforcer le lien qu'on avait avec les téléspectateurs.
Ce que retiennent évidemment tous les patrons des chaînes info, c'est l'engagement de leurs équipes et leur capacité à s'adapter. Et on écoute à ce sujet Alexandre Cara, le directeur de la chaîne France Info.
Il va falloir tirer des enseignements importants de ce qui nous est arrivé, parce qu'on a fait face à quelque chose d'extrêmement singulier. D'abord, pour nos équipes, être confronté à une pandémie, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau. Donc, distanciation sociale, désinfection des bureaux ou mise en place de gel hydroalcoolique, c'est quelque chose de nouveau dans des rédactions. Il y a eu l'organisation du travail, bien évidemment, c'est-à-dire par exemple installer des bandes de montage chez des journalistes, faire des duplex ou des papiers par l'intermédiaire de Skype ou de visioconférence. Ça aussi, c'est quelque chose d'inédit auquel on n'avait pas l'habitude. Et puis, on a dû réinventer, repenser également l'éditorial. On a lancé par exemple le hashtag On vous répond, parce qu'on est dans un moment on sent que le public a besoin de quelque chose de très serviciel, donc il fallait répondre à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations.
Même interrogation du coup pour Marc-Olivier Fogiel, et vous allez l'entendre, le directeur général de BFM TV se félicite lui de la capacité de réaction de ses équipes et au sens large.
Pour moi, l'enseignement numéro un de cette crise, en fait, c'est la capacité de mobilisation et d'adaptation des équipes de tous les médias de notre groupe Altice. Notre modèle est basé sur la convergence des différents supports, télé, radio, digital. Et c'est tout ça qui nous a permis d'avoir une grande capacité pendant ces 55 jours pour couvrir cette crise inédite dans des conditions de travail pas toujours simples. Donc ce moment assez incroyable, ça a d'une certaine manière resserré encore plus les liens, fédéré un peu plus les énergies et permis aux différentes antennes du groupe d'avoir cette entre guillemets efficacité pour produire de l'information.
Je vous le disais il y a quelques instants, BFM TV reste très en avance sur sa concurrence. Elle est la cinquième chaîne de France depuis le début du confinement. C'est 5 places de mieux qu'en période normale. La chaîne a même réussi à rajeunir la moyenne d'âge de son public, juste en dessous des 53 ans. C'est 3 ans et demi de moins que d'ordinaire. Pourtant, cette domination n'est pas toujours sans partage. Thomas Bauder de CNews tenait également à tirer un autre enseignement de cette séquence de crise.
On a eu la preuve qu'on pouvait régulièrement être devant BFM. C'est à la fois, ça peut paraître un peu mesquin, mais en même temps, ça fait du bien de se le dire de temps en temps. C'est-à-dire qu'entre 9h et midi, plus d'une fois, on a été devant BFM et un peu plus souvent encore devant LCI. Et dans le contexte concurrentiel qui est le nôtre, c'était important et c'est pas anodin, on a dit. C'est-à-dire que ce dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire ce lien avec les téléspectateurs, il s'est traduit par ces performances en audience.
Et Cyril, il s'est évidemment passé beaucoup de choses sur les antennes de ces chaînes durant plus de 2 mois. Et vous avez demandé à chacun de ces patrons s'ils avaient été marqués par un moment en particulier.
Évidemment, parmi les milliers d'heures de direct, difficile pour chacun de faire le tri. Mais vous allez voir, nos 4 dirigeants avaient quand même leur petite idée sur la question, avec parfois le même protagoniste, Olivier Véran. Inconnu au bataillon avant le coronavirus, le ministre de la Santé est de tous les plateaux depuis le début de la crise sanitaire. Il était encore aux 20h de TF1 hier soir, ce matin sur BFM. Marc-Olivier Fogiel, justement patron de BFM, et Fabien Namias de LCI ont chacun retenu un moment qui concerne Olivier Véran sur leur antenne. On commence dans l'ordre chronologique avec Marc-Olivier Fogiel.
C'était le lundi 9 mars au soir, on faisait une spéciale avec Olivier Véran, c'était sa première grande interview en plateau, et de manière très pédagogique, il fait un dessin en forme de cloche et il explique avec ce dessin qui a derrière été beaucoup été repris comment, en fait, il fallait freiner l'épidémie. On était à une semaine du confinement. Personne n'imaginait encore la suite du scénario. Et ce tout jeune ministre de la Santé, de façon extrêmement pragmatique et précise, fait ce dessin très compréhensible pour tout le monde. Et ça a été un moment, je trouve, clé, en fait, de toute cette crise. Ce moment assez simple de télévision, très clair, et qui a permis à tout le monde de prendre conscience de ce à quoi on était confronté.
Une courbe qui va en effet beaucoup faire parler d'elle. Nous sommes le 9 avril et deux jours plus tard, Olivier Véran est cette fois sur LCI dans la grande confrontation présentée par David Pujadas. Fabien Namias nous raconte.
Il y a un moment parmi les très nombreux qu'on a traversé depuis un peu plus de 2 mois qui m'a beaucoup frappé avec les équipes de LCI, c'est la soirée du 11 mars. Nous avons proposé au ministre de la Santé, Olivier Véran, d'être au milieu d'un certain nombre d'interlocuteurs, des médecins, des épidémiologistes, des Français de toutes catégories. Il s'est exprimé sur l'épidémie et on l'a vu à un moment pris à partie, avec respect, mais néanmoins pris à partie par un infectiologue célèbre, le professeur Combe, en l'espèce de la pitié, qui a dit « Mais attendez, on se dirige vers une catastrophe potentielle. S'il n'y a pas de réaction, nous serons dans une situation bien pire que ce que connaît l'Italie. » Nous étions le 11 mars et finalement c'est ce soir-là que s'est noué la dramaturgie et finalement tout l'enjeu, toute l'intensité qui s'est nouée autour du coronavirus et qui en quelque sorte a annoncé le confinement qui allait suivre, ça pour moi était un moment essentiel dans cette période et même dans l'histoire de LCI.
Une soirée importante effectivement pour LCI, ce soir-là elle réunit 450 000 téléspectateurs de moyenne et se classe en tête des chaînes d'info. Plus qu'un moment en particulier, le directeur de France Info, Alexandre Carra, veut lui souligner l'importance d'une personne et non, il ne s'agit pas d'Olivier Véran.
Est-ce qu'il m'aura particulièrement marqué, c'est Arnaud Miguet. Nous étions les seuls à avoir un correspondant à Wuhan au moment où l'épidémie se développait là-bas. Et Arnaud Miguet apparaît à la télé, comme ça, seul, avec son masque, en essayant de nous alerter un peu de ce qui est en train de se passer en Chine. Et j'ai l'impression que nous sommes restés sourds, tous autant que nous sommes, pendant des jours et des jours, à l'information, à l'alerte qu'il nous donnait. Et tout d'un coup, Arnaud Miguet, seul là-bas, confiné, avec son masque, nous rattrape.
Thomas Baudert a lui aussi choisi de ne pas forcément retenir une séquence de son antenne. Le directeur délégué de CNews a tenu à souligner au contraire l'importance d'un membre de sa chaîne.
Il y a un truc que je retiens, c'est la présence formidable, plus que formidable, extraordinaire de Brigitte Millot. Ça fait 55 jours qu'elle est à l'antenne. Elle n'a pas pris une journée de repos, comme la plupart des soignants de France qui sont sur le front depuis le début. Alors, toute proportion gardée, elle n'est pas dans un hôpital, elle est dans une rédaction, elle est sur un plateau. Mais elle est là le matin, elle est là le midi, elle est là le soir, elle est là le week-end. C'est pas une révélation, parce qu'on savait déjà quelle femme c'était, mais depuis le début du confinement, elle a quand même créé quelque chose. Ça a été notre point fixe, notre pivot dans la tempête.
Un pivot et place maintenant à la séquence déconfinement.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Culture Média continue évidemment avec dans un instant notre info média du jour. On va parler d'une tribune publiée dans l'Obs intitulée « Une cinéaste ne devrait pas avoir à dire ça ». Coup de gueule contre la programmation de France Télévisions pendant le confinement. Nous en parlerons avec son auteur Charlotte Silveira, auteur, réalisatrice, productrice, juste après ça.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Une cinéaste ne devrait pas avoir à dire ça. C'est le titre d'une tribune publiée dans l'Obs par Charlotte Silveira, auteure, réalisatrice, productrice. 40 ans de carrière, près d'une vingtaine de films à son actif comme Louise l'Insoumise, c'était en 85, ou encore Prisonnière en 88, avec Bernadette Lafont, Annie Girardot ou Marie-Christine Barrault. Aujourd'hui, elle pousse un coup de gueule contre la programmation de France Télévisions pendant le confinement. Depuis le 21 mars, j'explique, France 2 diffusait des films patrimoniaux, comme ça qu'on dit, juste après le journal de 13h. Dernière diffusion hier avec la Folie des grandeurs avec Louis de Funès, film de Gérard Houry. À partir d'aujourd'hui, c'est France 3 qui prend le relais à 13h55 avec la diffusion de Casque d'or de Jean Becker avec Simone Signoret. Ça date de 1952. Bonjour Charlotte Silveira.
Bonjour Philippe Vandel.
Alors je l'ai dit, petit rappel des faits, dès le 21 mars, France 2 a bouleversé sa grille en diffusant en début d'après-midi des films patrimoniaux. Je vais donner des exemples, les Tontons Flingueurs, La Grande Vadrouille, Jean de Florette, Manon des Sources, Un éléphant, ça trompe énormément, Nous irons tous au paradis, La soupe aux choux, L'aile ou la cuisse. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous dans cette programmation?
Eh bien, d'abord, merci de me donner la parole. Ce qui ne va pas pour ces chaînes-là, c'est que ce sont des rediffusions sans que France Télévisions prenne un risque en ouvrant ses grilles à des films différents de toute la diversité du cinéma. Ils puisent dans des catalogues de majors dans lesquels ils puissent constamment, alors qu'il y a des catalogues dont on nous dit qu'ils ne sont pas référencés et qui pourraient mettre à la connaissance du public des œuvres magistrales. Il faut considérer que des films qui ont plus de 20 ou 30 ans sont déjà considérés comme des films patrimoniaux, et surtout ils font fi de tout un pan de la cinématographie française qui est la plus riche à mes yeux du monde, c'est-à-dire des films des minorités et de la majorité que constitue le cinéma des femmes. Ouais. En 2016, nous avions fait l'analyse que sur France 2, France 3, France 4, France 5, France O, 7,2% de films de femmes cinéastes étaient diffusés sur ces 5 chaînes. Ouais. Et en 2019, victoire, nous étions passés à 8%.
Ouais. Je perçois votre ironie.
Victoire.
En même temps, c'est parce que peut-être il y a moins de films de femmes. C'est peut-être pas le problème que vous pointez du doigt n'est pas inhérent aux décisions de programmation de France Télévisions.
Il y en a de plus en plus, vous avez raison, il y a moins de films de femmes, il y a moins de budget alloué aux femmes, c'est un autre problème. Le problème que je voudrais soulever, c'est que sur 5 canaux de diffusion d'un service public, ouais, on sent bien que là, pendant cette période dramatique du coronavirus, France Télévisions pourra avoir de l'audace, ne plus chercher à faire de l'audimat, à l'épuiser dans des catalogues que des distributeurs ou des producteurs indépendants. Pardon ?
Non, je vous écoute.
Mettre à leur disposition, faire découvrir de nouveaux visages, de nouvelles écritures, tout ce que nous tous nous demandons. Faire que chaque œuvre passée à la télé rémunère toute la chaîne de fabrication du cinéma.
Mais quand même, vous reprochez à France Télévisions de faire de l'audimat, mais quand même, c'est des cartons d'audience, 5 millions de téléspectateurs, 30% de part d'audience pour la grande vadrouille, alors que ça a été multidiffusé et rediffusé. Est-ce que c'est pas une manière, à 13h55, qu'il y a un public familial, on sort du déjeuner avec les enfants, d'amener les enfants au cinéma? Et puis, c'est pas la seule case sur France Télévisions.
Bien sûr. Écoutez, il y a d'autres films. Je dis des films « Trois hommes et un couffin » de Colin Serrault. Ouais. S'il passait à cette heure-là, ferait aussi de l'audience. Mmh. Il y a des tas d'autres films. Je pense, une comédie de Pierre Salvadori. Sur France 4, par exemple, j'y suis extrêmement attachée. J'espère qu'elle ne va pas disparaître comme il en avait été question et comme on était menacé. Ouais. Vous avez dit que j'ai fait des films avec des enfants. Ouais. J'ai dédié vraiment ma carrière. Jacques Toubon, lorsqu'il était président du Fondeur Image, m'avait dit que je faisais du cinéma de citoyenne. Approcher la culture, le cinéma, à l'éducation populaire, ça devrait être l'adage de France 4. Elle l'effectue parfois en diffusant ses programmes éducatifs, c'est formidable. Mais pensez par exemple que Louise l'Insoumise, qui est aujourd'hui, alors qu'il traitait d'une petite fille en révolte contre les contraintes religieuses juives, permet à des petites beurettes de la troisième génération de s'identifier. Pensez à ça, leur montrer d'autres choses, les ouvrir à un autre monde. Ouais. Comment faire mieux que ce canal magnifique qu'est la télévision?
Bon, on va en parler justement. Charlotte Silvera, j'ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que les films patrimoniaux de France 2, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. La mauvaise, c'est que ça passe, selon vous, plutôt c'est une mauvaise nouvelle, selon vous, ça passe sur France 3. Vous restez avec nous, on a encore plein de questions à vous poser. On marque une pause et on se retrouve.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Charlotte Silvera, réalisatrice, productrice, elle a signé une tribune remarquée dans l'Obs titrée « Une cinéaste ne devrait pas avoir à dire ça ». Et ce qu'elle aurait aimé ne pas avoir à dire, c'est le coup de gueule qu'elle pousse contre la programmation de France Télévisions pendant le confinement, qui diffusait des films patrimoniaux tous les jours après le déjeuner à 13h55. Désormais, ça migre, si j'ose dire, sur France 3. France 3 prend le relais de ces films avec une prédilection pour les polars qui mettent en scène Jean Gabin. L'acteur sera présent dans 9 des 10 films diffusés lors des 2 prochaines semaines. Il y aura La Bête humaine de Jean Renoir, 1938, Quai des Brumes, chef-d'œuvre, 38, Marcel Carné, jeudi, ou encore Un singe en hiver, encore un chef-d'œuvre, 62, Henri Verneuil, sera le vendredi 22 mai. C'est pas bien, Jean Gabin? Je vous entends soupirer, Charlotte Silvera.
Bien sûr que si, c'est bien, Jean Gabin. Mais qu'est-ce que doivent penser nos jeunes comédiens, Gaspard Ulliel, Nicolas de Vauchel? Qu'est-ce que doivent penser les jeunes compositeurs? En fait, vous me parlez de films patrimoniaux. Vous avez raison, c'est tout un volet et c'est formidable qu'il y ait cette programmation. C'était une programmation, Claude Jean-Philippe et Patrick Brion nous ont élevés dans ces films de grande qualité.
Dans le ciné-club, apostrophe.
Mais bien sûr, non pas apostrophe, c'était le cinéma de minuit.
Ah, vous avez raison Brion, ouais. C'était Claude Jean-Philippe après apostrophe.
Pour une fois, c'est bien la première fois que j'ai raison, Patrick. Ouais. Philippe, je voudrais profiter que vous me donniez l'antenne pour parler du cinéma à la télévision. Combien de fois me faut-il dire que, grâce à la copie privée inventée par ce génial Jacques Lang, nous avons la possibilité de rémunérer toute la chaîne de création du cinéma. Les artistes interprètes, les compositeurs, les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs, les éditeurs de musique. Nous ne faisons pas l'aumône. Nous voulons que la télévision soit le vecteur pendant cette crise déflagratrice de passer des films, de montrer le travail que font les jeunes, les moins jeunes, dans une palette extraordinaire de talents. Ça permet de rémunérer, grâce à la copie privée, ce que le grand public ne connaît pas, toute la chaîne de fabrication d'un film de cinéma. Ouais. Ça leur permettrait de montrer de jeunes acteurs ou de moins jeunes acteurs, des écritures de scénaristes tout à fait talentueux, sans parler de l'écriture formidable de réalisateurs. Et puis d'encourager les risques que prennent les producteurs et distributeurs de films indépendants. C'est tout ce cinéma qui concerne, vous appelez ça mon coup de gueule, c'était la première alerte le 22 avril. Après, d'autres ont pris le relais.
Exactement, il y a une tribune dans Le Monde qui a été signée par une centaine de personnalités du monde du cinéma. Vous regrettez qu'ils ne soient pas... Pourquoi vous n'avez pas essayé de les fédérer directement?
Eh bien, parce que c'était le 22 avril, personne ne bougeait. Ouais. On m'a incité à tout de suite la publier, ce que j'ai fait. Ensuite, celle de la grande tribune concernait le problème des intermittents du spectacle, la condition de travailleurs intérimaires. Moi, je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il fallait reconnaître le travail et la valorisation de nos métiers artistiques qui ne sont pas aussi confortables. Quand je fais des débats dans des classes, les enfants me demandent combien je gagne.
Exactement.
Mais il y a tout un pan du cinéma qui vit dans une précarité mais désespérante.
On a bien compris votre message, Charlotte Silvera. On a justement parlé de cette précarité dans le monde de la culture et spécifiquement dans le monde du cinéma en ce moment. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes réalisatrice, productrice, Charlotte Silvera. Vous étiez en direct avec nous ce matin sur Europe 1 et on vous en remercie. Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Faustine Bollaert, déconfinée et donc de retour sur France 2 dès cet après-midi avec une émission qui porte bien son nom. Ça commence aujourd'hui. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino, puis le chanteur Kali. Son dernier album, Caval, est sorti la veille du confinement et pas de bol. Mais ça y est, les disquaires ouvrent à nouveau leurs portes. Nos indispensables, Au nom du père, une série sur la foi et la famille diffusée sur Arte. Margot Barallon l'a vu pour nous. Les séries, c'est sa religion. Ah ah, humour. Enfin, Spider-Man, comme jamais vous ne l'avez vu, ce sera avec Clément Le Saffre juste après ça. Europe 1, bientôt 10h.
Le flash Marguerite Lefebvre.
Il y a plus de risques à rester chez soi que d'aller à l'école. Jean-Michel Blanquer incite les parents, lorsque les écoles sont ouvertes, à y accompagner de nouveau leurs enfants. Le ministre de l'Éducation était l'invité d'Europe 1 ce matin. L'école n'est pas quelque chose de secondaire, selon le ministre. Les établissements de maternelle et de primaire vont peu à peu rouvrir cette semaine. Aujourd'hui, il sera essentiellement consacré à la rentrée des enseignants. Mais dans les jours qui viennent, 1 million d'enfants sont attendus dans les classes. Dès ce matin, des masques seront distribués dans les écoles. Ce lundi marque donc le début du déconfinement dans le pays. Retour à l'école, retour en entreprise également. Vous êtes nombreux à reprendre les transports en commun, mais pas d'affluence massive. Cette journée, pour l'instant, se déroule correctement, selon le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari. Sur les routes, pas de gros bouchons non plus à signaler. En Ile-de-France, il y avait ce matin 10 fois moins d'embouteillages que d'habitude. La règle du télétravail semble toujours s'appliquer dans de nombreuses entreprises, y compris dans le quartier d'affaires de la Défense, très peu fréquenté ce matin. Bruno Le Maire dénonce la fermeture de l'usine Renault-Sandouville. Une très mauvaise décision pour le ministre de l'Économie qui juge les raisons de la fermeture très fragiles. L'usine qui avait rouvert ses portes fin avril a dû fermer sur ordre du tribunal saisi par la CGT. La sécurité des travailleurs n'y serait pas assurée. Ce chiffre auquel on pouvait s'attendre mais qui est tout de même saisissant, le nombre de créations d'entreprises, de nouvelles immatriculations a chuté de 54,3% pendant le confinement. C'est ce qu'annoncent les tribunaux de commerce. Les pompiers sont intervenus plusieurs centaines de fois la nuit dernière en Gironde et dans les Landes. Depuis 36 heures, des pluies torrentielles s'abattent sur les deux départements. Aucune victime n'est à déplorer, mais les autorités appellent à la plus grande prudence. La vigilance rouge pour pluies et inondations est maintenue jusqu'à la mi-journée en Gironde et dans les Landes. Donc, par ailleurs, 26 départements du sud-ouest et du centre de la France sont en vigilance orange. Il va pleuvoir encore sur une bonne partie du pays aujourd'hui, à l'exception de la Bretagne et de la Corse. Les Britanniques vont devoir rester confinés encore au moins 3 semaines jusqu'au 1er juin. Les autorités redoutent un rebond de l'épidémie qui a déjà fait près de 32 000 morts. Enfin, la Bourse de Paris a ouvert en hausse ce matin en ce premier jour de déconfinement. La Bourse de Paris gagne 0,38% en ce moment même. Le CAC se rapproche de la barre des 4 600 points.
Merci beaucoup Marguerite Lefebvre, plaisir de vous retrouver en studio ici avec nous, à 2 mètres de distance évidemment, réglementaire. On vous retrouve tout à l'heure à 11h.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et merci également vous toutes et tous de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. On va recevoir dans quelques instants Faustine Bollaert. Il y aura ensuite le journal de la culture d'Hélène Manarino, puis le chanteur Kali pour son dernier album Caval, peut-être le plus personnel. Nos indispensables du jour, une série étonnante au nom du père sur Arte et un comics sur un super-héros déjà culte, Spider-Man.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Faustine Bollaert.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Ravi de vous entendre et d'entendre votre sourire. Ça se communique à distance, le sourire. Ça commence aujourd'hui, donc ça recommence aujourd'hui. Votre émission de témoignage de France 2 que vous présentez du lundi au vendredi avait été arrêtée le 23 mars en raison de la crise du coronavirus et remplacée, on en a parlé, par des films du patrimoine. Ça commence aujourd'hui, revient donc aujourd'hui à 13h55 dans des conditions inédites. Lesquelles? D'abord, vous serez en studio ou chez vous?
Non, je serai en studio. Les émissions ont été tournées la semaine dernière dans des conditions en effet un peu particulières, avec évidemment des conditions sanitaires extrêmement strictes. Et en fait, je serai en plateau avec un expert et je recevrai mes invités qui eux sont depuis chez eux, qui seront en Skype, mais avec un habillage particulier. On a essayé vraiment de garder la qualité du programme, y compris visuellement, de manière à ce que ça soit agréable et qu'on sente le moins possible cette distance, en tout cas virtuelle.
Un seul expert, donc à chaque fois, vous serez juste deux en plateau, donc.
Exactement, à 2 mètres de distance, même beaucoup plus d'ailleurs. Voilà, on est deux en plateau à essayer d'accompagner au mieux nos intervenants.
Quels seront les thèmes abordés? Avant même d'aborder les thèmes, déjà la thématique. La thématique sera le confinement, le déconfinement, j'imagine.
Pendant 15 jours, on va vraiment se focaliser pour essayer de raconter ce qui nous est tous arrivé pendant ces 8 semaines. En fait, l'actualité, moi j'ai pu le constater, a été tellement puissante et tellement forte que très souvent, en effet, au journal de 20h, on nous dressait un catalogue de tous les drames et les bonheurs humains qui pouvaient se dérouler pendant ce confinement, mais on n'avait pas le temps de s'y attarder, on n'avait pas le temps de réellement s'écouter. Donc on parlait de ceux qui enterraient leurs proches dans des conditions dramatiques, de ceux qui débordaient d'audace pour essayer de se retrouver d'une manière ou d'une autre, ouais, en famille. Nous, on a décidé maintenant qu'il était temps de se poser avec ce déconfinement et de s'écouter et de prendre le temps de raconter ce qui a pu nous arriver pendant 8 semaines. Donc pendant 15 jours, on va vraiment être focalisé sur cette expérience un peu folle qu'on a vécue tous ensemble.
Alors, racontez les thèmes, parce qu'il y en a qui sont vraiment très très forts. Racontez les thèmes, Faustine Bollaert.
Alors déjà aujourd'hui, on a voulu commencer par c'était vraiment à parti pris, un sujet heureux et positif. On ne voulait pas tout de suite aborder les sujets lourds. Aujourd'hui, on va parler de gens qui ont rencontré l'amour pendant le confinement. Parce que oui, Philippe, c'est possible.
Alors, mais comment ils ont fait ?
Alors, vous savez quoi ? C'est que non seulement on va avoir des gens qui plus traditionnellement ont rencontré des gens sur des sites de rencontres et qui depuis 8 semaines passent leur vie à dormir ensemble avec Skype ouvert ou leur réseau toute la journée. Ouais. Ça, c'est plutôt voilà. Mais on a aussi des gens assez drôles qui ont débordé d'imagination pour se rencontrer, pour se dater pendant le confinement. J'ai notamment quelqu'un qui va me raconter que il organisait une rencontre au supermarché où il faisait semblant, c'est-à-dire qu'il rencontrait une femme qu'il connaissait pas, ouais, et il faisait semblant tous les deux d'être un couple et d'aller faire des courses. Donc évidemment, on apprend à se connaître beaucoup plus vite en fonction de ce qu'on choisit dans les rayons. Et donc il y avait un jeu amoureux entre eux dans le supermarché jusqu'à une discussion à la fin, caddie à la main, où on faisait croire à tout le monde qu'on était en couple alors qu'en fait c'était une première rencontre. Voilà, il y a des tas de choses qui se sont passées très amusantes comme ça à raconter.
Oui, mais attendez Faustine, la question que tout le monde se pose, et après comment ils ont fait pour aller un peu plus loin, c'est-à-dire les gestes barrières, il y a un moment, 2 mètres c'est un peu loin quand même si on veut s'aimer.
Ah non, mais alors je peux vous dire qu'il va se passer des choses cette semaine, c'est-à-dire que tous mes invités ont prévu de se rencontrer entre aujourd'hui et après-demain. Donc non, je vais assurer un suivi, je vous le promets.
Ils ne se sont pas vus, ces couples-là.
Ah, ce couple-là. Ah ben, ils se donnaient rendez-vous sur le parking du supermarché. Ils discutaient à un mètre de distance. Et d'accord, au lieu d'aller prendre un café, eux, ils allaient refaire leur course, quoi.
D'accord. Non, mais je veux dire, c'est resté un amour platonique. Ils n'ont pas rompu la règle.
Ah ben, c'est resté un amour platonique, évidemment.
Ils n'ont pas rompu la règle.
Mais vous savez très bien qu'on n'a pas besoin de s'effleurer ou de se toucher pour tomber amoureux, Philippe.
Je le sais, mais je voulais savoir ce que racontait votre émission. Il y a aussi beaucoup plus tragique ou difficile des familles qui vivent ensemble à 10 ou à 15.
Des familles qui vivent à 10 ou à 15. Celle-là, on l'a pas encore tournée pour vous dire la vérité. Ouais. J'ai aussi décidé de me donner la parole à tous ceux qui vivent aujourd'hui un deuil impossible, de tous ceux qui n'ont jamais vu le corps de leur femme, de leur défunt, qui aujourd'hui ont le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'irréel parce qu'il faut expliquer,
il était interdit en période de confinement d'assister à un enterrement.
Voilà. Exactement, j'ai notamment ce cas de ce monsieur de Lionel qui a vu partir sa femme qui allait juste à l'hôpital avec un soupçon d'infection urinaire, qui une femme de 66 ans à risque, c'est vrai, et qui ne l'a jamais revue parce qu'il n'avait pas le droit d'aller à l'hôpital, il n'avait pas le droit d'assister à la mise en bière qui doit avoir lieu 2 heures après le décès de la personne et qui aujourd'hui n'arrive absolument pas à imprégner, à comprendre qu'elle ait pu disparaître, et il pense qu'elle va revenir parce qu'on n'a pas toutes les étapes du deuil, en fait, tous les rituels de deuil qui sont importants pour les vivants, les personnes qui ont perdu quelqu'un, on leur a volé. Donc le virus est devenu un peu le chef d'orchestre de ce deuil et leur a empêché de dire au revoir. Donc on a ces témoignages qui sont extrêmement forts et éprouvants. On a fait une émission aussi spéciale sur les violences conjugales qui se sont décuplées pendant le confinement avec des femmes qui se sont retrouvées enfermées avec leur bourreau. Ça, c'est pour les sujets plus lourds. Et puis des sujets sur des déclics de vie, des personnes qui pendant le confinement ont décidé qu'ils allaient changer radicalement de vie. Oui. Et là aussi, c'est très fort et ça fait réfléchir.
Pardonnez-moi Faustine Bollaert, mais on a vraiment envie de savoir, qui avez-vous réussi à faire témoigner au sujet des violences conjugales ? Vous avez réussi à faire témoigner des femmes ?
On a réussi évidemment à faire témoigner des femmes qui nous racontent un départ, c'est-à-dire que j'ai eu une femme qui me racontait qu'elle a réussi à partir pendant le confinement. J'ai eu 2 femmes qui sont aujourd'hui enfermées dans un hôtel qui ont été protégées par une association qui les a récupérées pendant le confinement parce qu'elles ont été à la pharmacie déclarées qu'elles étaient aujourd'hui terriblement en danger. Donc on va mettre aussi en valeur des systèmes associatifs, des applications qui ont vu un boom pendant le confinement de téléchargement justement pour prévenir des proches quand on est en danger. Mais oui, on a des femmes évidemment qui ont été directement impliquées et qui ont vécu ce confinement, qui vont nous raconter l'angoisse quand elles ont compris que Emmanuel Macron ou Édouard Philippe nous annonçaient qu'elles allaient être enfermées chez elles et qu'elles ont compris que le cauchemar commençait encore plus pour elles.
Ouais, vous avez déjà annoncé, Faustine Bollaert, que s'il y avait une deuxième vague de contamination, vous teniez à être à l'antenne. Pour quelle raison ?
Je pense que c'est fondamental qu'il est, moi j'ai été extrêmement frustrée, même si je comprenais très bien la volonté de France Télévisions de réunir le public intergénérationnel derrière des films, devant des films patrimoniaux à la télévision. Moi je pense qu'en ce moment, plus que jamais, on a besoin de liens, on a besoin de proximité, on a besoin de parler, on a besoin de garder ce contact. Donc moi j'ai vraiment, j'ai bouillonné à la maison, parce que je pense que cette émission qui est, cette émission qui est servicielle au maximum, elle a plus son sens que jamais. On a besoin de se retrouver aujourd'hui et de parler et de mettre des mots sur ce qui nous a fait souffrir. Alors on a basculé, nous, pendant tout le confinement sur Instagram, on a proposé un « ça commence à la maison » tous les jours à 14h, mais aujourd'hui je suis vraiment contente de retrouver l'antenne. Je pense que c'est notre place, je pense que c'est notre devoir, et je ne veux absolument pas, même s'il y a en effet un rebondissement, il faut absolument qu'on continue ce rendez-vous qui est un rendez-vous aujourd'hui important, je pense.
Voilà, et je pense à la direction de France Télévisions qui évidemment vous écoute. Vous restez avec nous, Faustine Bollaert. On a encore plein de questions et vous avez plein de projets. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Faustine Bollaert, ça commence aujourd'hui, ça reprend aujourd'hui avec des émissions fraîches tournées il y a quelques semaines, non, la semaine dernière, à 13h55 sur France 2. Il y aura un petit changement, si je suis bien informé, Faustine, dans l'émission. Vous qui êtes très tactile, il y a un petit rituel dont vous allez devoir vous passer.
Ben oui, parce que par définition, mes invités seront pas là, et c'est vrai que j'aime beaucoup, en général, quand on a passé une heure et demie à se confier, à se raconter des choses assez fortes. C'était un rituel, on va dire, très spontané, très instinctif. Donc, c'est vrai que j'embrassais beaucoup mes invités. Là, je pense que je passe ma vie à leur dire que je les embrasse de loin. Parce qu'en effet, comme ils sont chez eux, malheureusement, je pourrais pas les embrasser et vivre ce moment de chaleur humaine. Et d'ailleurs, on va tous s'interroger sur nos contacts aux autres,
hein. Exactement.
Mais en effet, dans mon émission, malheureusement, c'est en stand-by, mais on espère recevoir à nouveau des invités en plateau très vite.
Voilà, mais vous n'embrasserez pas non plus, vous
ne prendrez pas
vos experts. J'ai lu qu'il y a avec vous un nom que le grand public ne connaît pas, mais qui est très important dans le dispositif, Cyril Fricot.
C'est drôle qu'on vous parle de ça. Ben, c'est mon coiffeur.
Mais c'est dans Téléstar. Ils disent qu'il est très important, c'est le maquilleur coiffeur. Et je voulais savoir, ils sont comment vos cheveux? C'est des dessous de bras? Quoi vous ressemblez en ce moment?
Ils sont beaucoup trop longs, ils ressemblent à rien, et j'ai des cheveux blancs comme tout le monde, mais j'ai beaucoup d'espoir d'aller chez le coiffeur. Mais j'ai beaucoup d'amis coiffeurs, et je trouve que cette période où on leur a rendu hommage, parce que les Français auraient été complètement paniqués, sans leur coiffeur, les coiffeurs sont bookés dans les 15 jours, donc c'est l'occasion de leur dire à quel point ils sont essentiels.
Voilà, exactement. Si vous voulez vous rassurer, vous pouvez voir ma tête, on est sur europe1.fr en vidéo.
Non, et mes cheveux, vous êtes bien avec vos cheveux grisonnants,
mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Bref, merci beaucoup pour le compliment. Ça repart, il n'y a pas que votre émission dont les tournages ont repris. Il y a également le géant Netflix qui vient de s'y remettre et la plateforme commence à reprendre ses productions, mais dans des pays choisis, surtout pas aux États-Unis, et en redoublant de précautions. Margot Barallon.
Oui, le mot d'ordre, c'est la prudence. Les tournages ne reprennent que dans les pays où l'épidémie est sous contrôle. En Corée du Sud, en Islande ou au Japon, par exemple, ils devraient repartir aussi bientôt en Suède et en Norvège. À chaque fois, les productions s'adaptent aux recommandations locales. En Corée du Sud, on prend la température des équipes et des acteurs régulièrement. Au moindre signe d'infection, un test sera demandé et le tournage arrêté. En Islande, où les tests sont massivement disponibles, tout le monde a accepté de s'y soumettre. En Suède, cela va encore plus loin. Toute l'équipe a prévu de se placer en quarantaine avant et après le tournage prévu à la fin du mois. Partout sur les plateaux, du gel hydroalcoolique, des masques et des gants pour les équipes, et les paniers repas individuels ont remplacé les traditionnels buffets pour le déjeuner. Une chose va en revanche beaucoup ralentir les tournages, pause obligatoire toutes les 3 heures pour que tout le monde se lave les mains. Et puis les scénarios au temps du coronavirus risquent de faire quelques déçus, moins de scènes intimes ou de foule, impossible à tourner. En attendant la sortie de Social Distance, la première série tournée entièrement en confinement.
Merci beaucoup à Margot Barallon. Faustine Bollaert, ça vous intéresse une série sur le confinement ou au contraire vous voulez sortir de là?
Je sais pas. Voilà, je m'interroge. Non, mais je pourrais vous inventer une réponse. Mais
et appliquer à votre émission, combien de temps vous pouvez rester sur cette thématique du coronavirus, du confinement et du déconfinement?
Nous, 15 jours, parce que je pense qu'après, on a envie de s'aérer, on va avoir envie de parler d'autres choses. On a tous envie de reprendre aussi un peu nos vies. Et vous voyez, la question que vous posez, genre, est-ce qu'une série? Je voyais hier qu'il y avait sur Twitter que défilait une liste de tous les livres qui allaient sortir. Il y a des centaines de livres qui vont sortir sur le Covid-19. Je pense qu'aujourd'hui, on a un peu besoin de s'aérer de ça, mais on va avoir besoin après d'un temps de réflexion, peut-être plus en septembre, ou là, à ce moment-là, je serais peut-être plus curieuse. Mais là, en ce moment, je pense qu'on a envie, voilà, d'atterrir en douceur et aussi de parler d'autres choses doucement.
Ah bah justement, pour parler d'autres choses et parler de s'aérer, est-ce que vous êtes vu samedi soir dans le bêtisier de France 2 qui a cartonné ? Il était à touche-touche avec TF1, il était derrière France 3, mais à touche-touche avec TF1. Vous êtes vu ?
Mais pas du tout. Mais on m'a dit qu'en effet, il y avait j'ai reçu des messages sur Twitter.
Ah non, mais écoutez,
malheureusement, j'étais pas devant la télévision.
Alors, c'est quoi? On va combler ce manque. On a vu tous vos talents et votre immense connaissance du rap. Par exemple, vous étiez en train d'interviewer l'humoriste Artus et le rappeur Camini.
C'est dramatique, ça.
On vous a préparé un questionnaire sur votre rap attitude pour révéler le Slim Shady qui sommeille en vous. Vous êtes prêts?
Oui.
Alors, pas moi. Éminègre à
Éminègre. Salut. Salut mon pote. Salut cousin. Éminègre. Allez. J'adore moi.
Éminègre.
Lâche-moi un frère.
Allez, on monte là. Éminègre. À quel moment? Elle va être longue cette fois.
Elle va être longue.
Qu'est-ce que vous aviez en tête? Franchement,
non, mais j'avais rien en tête, j'ai juste savonné comme ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Vous imaginez bien, mais
évidemment.
Bon. Il y a deux jours aussi, j'ai eu un fou rire sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. On était en Skype justement et c'était drôle parce qu'il y a eu un mot trop et voilà.
Et alors, c'était chouette. En tout cas, on a vu dans ce bêtisier, ça sera le dernier extrait que je passe aujourd'hui, que dans l'émission Ça commence aujourd'hui, vous êtes en total contrôle et vous n'êtes pas du genre Faustine à vous laisser porter par votre inconscient.
La question peut-être, c'est quel est son idéal de femme?
Alors, quel est votre idéal de fesse?
De femme.
Pardon, de femme. Pardon.
Là, c'est plus qu'un lapsus, non?
Là, c'est le fond, oui, quelque part,
c'est le fond
peut-être
de la
que
pensée,
c'était...
Non.
Voilà, c'était le fond de ma pensée. Je pense que là, ça a vraiment parlé.
Il est temps que ça se déconfine. Depuis cette saison, on présentait également une nouvelle émission en prime time sur France 3. La boîte à secrets, ça va continuer? Vous en êtes où? Vous avez du stock? Comment ça se passe? Racontez.
Ah non, on n'a pas du tout de stock en fait. On a diffusé les émissions là, les deux dernières qu'on avait enregistrées au début de l'année là pendant le confinement. Les scores ont été corrects. On a fait toute une étude parce qu'en fait les gens sont très attachés à cette marque.
Ouais.
Mais en effet en audience on n'est pas encore au niveau que France 3 souhaite avec dans une case qui est un petit peu compliquée qui est celle du vendredi soir. Et on s'est aperçu qu'en fait les gens adorent le principe des surprises. Enfin les gens sont très attachés à la boîte à secrets. Donc on va essayer d'angler les choses un peu différemment, de mettre peut-être encore plus d'invités, encore plus de sourires, encore plus d'extraits, encore plus de divertissement. Les équipes d'Alexandra Red ont fait un formidable travail sur cette émission, parce que les gens vraiment y sont attachés. Donc normalement, on devrait tourner. Alors je ne sais pas si on va tourner fin juin, début juillet, ça va dépendre. Sans public, c'est vraiment compliqué. Donc ça sera soit, on va dire, en juillet, soit en septembre, en fonction des conditions sanitaires.
Ouais, vous tournez aujourd'hui ou pas? C'est quoi votre programme de la journée?
Non, je tourne dans deux jours.
Alors c'est quoi votre programme premier jour de déconfinement? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui?
Un café avec mes copines. Voilà, j'ai la chance d'avoir deux copines que j'ai pas vues depuis deux mois et qui me manquent infiniment et qui sont dans mon coin. Parce que moi, je savais que j'habite dans l'Oise.
Ouais.
Donc, on est confinés depuis encore plus longtemps. Moi, mes enfants sont pas retournés à l'école depuis le 14 février.
Ah oui, l'Oise,
donc
qui
on
était
est vraiment.
L'Oise, pardon, qui était un des premiers clusters, si je me souviens bien.
Oui, exactement. Et moi, ma ville était encore plus avant même, voilà. Donc, j'ai pas eu de chance. Enfin, pas eu de chance. Voilà, on est tombé. Donc, c'est vrai que nous, on a été enfermés depuis les vacances de février. Mmh. Et voilà, mes amis me manquent infiniment. Et donc, tout à l'heure, je vais prendre un café avec mes trois meilleurs copains.
Et le vin rosé aussi, peut-être. Apéro ce soir ou pas?
Non, il faut arrêter un moment. Je pense qu'à un moment, il faut se structurer.
Non, mais vous venez de faire un aveu génial.
Qu'on arrête.
Non, mais attendez, ça veut dire que vous avez passé votre confinement à picoler.
Non, pas du tout.
Bah, si vous dites qu'il faut arrêter
mais
un moment.
Comme tout le monde, j'ai fait des apéros visio. Mais je pense qu'à un moment, il est arrivé le temps où il faut qu'on arrête de faire du pain à la maison. Il faut qu'on arrête de faire. Parce qu'en fait, on va tous devenir énormes.
Ouais.
Et je pense qu'il est temps de se restructurer un petit peu physiquement et de reprendre des bonnes habitudes. Moi, j'ai l'habitude de prendre un petit verre le week-end avec mes amis. Je pense qu'on va refaire comme ça.
Oh, dis donc, un petit verre le week-end. Dis donc, quelle sobriété. Vous êtes un exemple, Faustine Bollaert.
Ouais.
Ça commence aujourd'hui. Ça reprend tout à l'heure à 13h55 sur France 2. Vous étiez en direct avec nous sur Europe 1. Un grand merci.
Merci beaucoup Philippe, prenez soin de vous.
Merci beaucoup. Avant de retrouver Hélène Manarino pour son journal de la...